Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est une deuxième rencontre avec Béatrice et François Morinière. Bonjour à tous les deux et merci de votre passage dans Des clés pour vivre.
Bonjour.
Apparemment, est-ce que vous les avez trouvées? Vous avez toutes les clés en main pour poursuivre cette route de la vie après le décès de Sophie. Ce décès était le 17 juillet 2013.
Alors, Béatrice, j'ai une très chère amie qui a perdu un frère à l'âge de Sophie, à 21 ans, et qui a donc plus de 30 ans de recul. Et elle m'a assez vite dit, elle m'a donné trois clés justement, elle m'a dit, prie, ne sois jamais seule, sois entourée et sois occupée. Et bon, j'ai essayé de me tenir à cette ligne-là.
Et ça marche apparemment.
Vous me permettez. On essaye.
Oui, les clés, on n'a pas toutes les clés. La dernière clé, on l'aura lorsqu'on la retrouvera au ciel. Donc jusque-là, on a des clés. Et donc, une des premières clés pour moi, ça a été effectivement d'avoir le réconfort d'un ou deux prêtres avec qui j'ai parlé assez vite après la mort de Sophie et qui m'ont dit « Écoute, sois serein, ta fille, elle est au ciel, c'est certain, elle est heureuse, elle souffre plus, elle est face à Dieu. » Et donc, voilà, elle est dans le bonheur éternel. Et c'est vrai que c'est une notion qui est importante pour des parents chrétiens qui essayent d'élever leurs enfants dans la foi. C'est pas toujours facile. Je pense que les auditeurs le savent. Donc voilà, cette première assurance-là, c'était une première clé d'apaisement.
Renforcée par le fait, on a appris assez vite qu'il y avait eu une veillée de célébration pénitentielle qui, entre guillemets, n'avait pas marché. Sophie avait le lendemain discuté avec le prêtre accompagnateur pour essayer de décoder pourquoi ça n'avait pas marché. Et en l'occurrence, le prêtre savait que Sophie s'était confessée. Donc il lui a donné, non pas... les derniers sacrements, mais l'absolution, en nous expliquant la nuance. Et du coup, c'est ça qui assurerait qu'elle est au ciel.
On a besoin d'être rassuré. Quand on est parent, catholique, pratiquant, chrétien.
On a besoin d'être... je pense que c'est important. Je pense que là...
Et quand on
n'est pas seul.
Quand un prêtre vous dit que votre fille est au ciel, on est rassuré.
C'est quelque chose d'important quand même. Je pense que c'est...
Est-ce qu'on peut avoir un doute, malgré tout, même si cette assurance est donnée par la parole d'un prêtre?
A posteriori, non, il n'y a pas de doute, mais bon...
Je vais jusqu'au bout.
Oui, mais je pense que non. Enfin, moi, j'avais pas de doute. J'y ai pas pensé exactement à ce moment-là, mais le fait qu'on me le dise très vite, spontanément... Voilà, ça a coché une case très vite dans ma tête en disant, ça c'est fait.
Oui, on peut considérer que Sophie menait une vie très heureuse, elle était joie et bonheur incarné.
Est-ce que vous pouvez nous la décrire un peu plus dans sa personnalité, Sophie?
Sophie, elle est étudiante en 4e année d'école ingénieur, elle sort beaucoup, elle fait plein de choses, elle est très souriante.
Elle est dans la vie.
Elle est dans la vie, elle conjugue ses études, ses amis, sa vie de foi. Sa vie de foi, elle n'est pas anodine, hein, elle est engagée. Elle vient à Lourdes depuis plusieurs années, elle sert à la BIF, l'association des grands quartiers de l'Île-de-France. Quelques mois avant sa mort, elle est aussi partie s'occuper d'enfants handicapés dans un week-end à bras ouverts parce qu'elle ne pouvait pas aller à Lourdes et bien sûr elle ne pouvait pas rester sans rien faire et donc elle a décidé d'essayer autre chose. Elle est aussi elle aime beaucoup la messe en famille, c'est très important pour elle tous les dimanches. Elle se construit avec les limites et les manquements de tout le monde, comme tout le monde. Donc je dirais, c'est pas une sainte, mais elle est sur chemin.
Mais vous avez eu, permettez-moi, et puis on va le découvrir au cours de cette semaine, vous avez eu plein de clins d'œil, plein de beaux cadeaux sur la route, et des petits Simon des sirènes,
oui.
Même nombreux, avec des personnalités.
C'est vrai qu'on n'est pas resté seul. Et,
vous avez été accompagné.
Et je crois que, comme tout à l'heure disait Béatrice, le fait de ne pas... s'enfermer dans la solitude, c'est une des clés quand c'est possible, bien sûr. On dit ça avec beaucoup de prudence et modestie, parce qu'on sait que parfois la réaction face au deuil, à la violence de la mort, c'est justement de se refermer et de garder tout ça pour soi.
Alors très vite, je rappelle pour l'auditeur qui ne connaît peut-être pas Sophie Morinière, et vous, les parents, Sophie est décédée le 17 juillet 2013, pendant cette période avant les JMJ, et le départ de Sophie, cet accident mortel qui lui a coûté la vie, a été très très médiatisé de partout.
Oui, parce que c'était... un événement qui a été repris par les médias tout de suite dans l'après-midi. Et donc, on a compris petit à petit, mais quand même assez vite, que les choses allaient un peu nous échapper. C'était une mort qui était un peu publique.
En fait, ça a pris cette dimension-là quand le pape, pour l'ouverture des JMJ donc, à Copacabana le 26 juillet, dans ce grand bazar qui était la plage de Copacabana ce jour-là, a réussi à mettre 2 millions de jeunes du monde entier en prière et a nommé expressément Sophie Morinière. On dit, on va commencer par prier pour Sophie Morinière. Et c'est vrai que là, bon, nous, on n'était pas devant notre télévision. On nous avait proposé de venir au JMJ, mais c'était non. Et c'est vrai que là, on s'est dit, il se passe quelque chose. Sophie nous échappe, en fait. Et Sophie va faire du bien à plus que sa famille. C'est ça qui s'est passé, en fait. Quand le pape fait prier pour Sophie, on comprend que... Oui, ça nous échappe.
2 millions de jeunes.
Oui, plus quelques centaines de millions devant la télé. Donc, surtout d'un coup, on ne sait plus trop quoi penser. Alors, on est dans un sentiment mitigé. On est toujours dans une immense tristesse. Et puis aussi, une démotion et de la reconnaissance, parce que le pape pense à elle. Très beau. D'ailleurs, on reverra le pape, nous, l'année suivante, la veille de la canonisation de Jean-Paul II. On aura la chance d'aller à la messe avec lui le matin dans sa chapelle. Et à un moment, on va vers lui à la fin de la messe et on lui dit « on est les parents de Sophie ». Tout de suite, il connecte et il se met en prière. Il se trouve qu'à ce moment-là, on se touche le front et on sent que le pape voilà, est en profonde communion. Son visage change complètement, hein, alors qu'il est joyeux, son visage se fige. Et là, voilà, on se dit « on n'est pas tout seul ». Et merci Seigneur de nous permettre de partager ça avec lui, parce que c'est vrai que ça ne laisse pas indifférent et que ça donne des forces. On sort de là, on est... on se dit qu'on a pris une bonne tape dans l'épaule et qu'on peut, voilà, on peut s'en dresser.
Tout en continuant à se dire, comme tu l'as souvent dit, j'aurais préféré être anonyme parmi les anonymes dans la grande foule des chrétiens qui étaient là sur la place Saint-Pierre ce jour-là.
Avec Sophie.
Et avec Sophie, oui.
Voilà, c'est sûr que c'était pas ça que j'avais choisi, mais enfin, voilà, voilà, c'est un exemple effectivement de présence auprès de nous, inattendu, inespéré. Et évidemment, on pense que tout ça, c'est pas le hasard, mais c'est la providence. Et sûrement que Sophie, à ce moment-là, et depuis, et toujours aujourd'hui, continue du ciel à...
Vous avez un sourire radieux. Vous parlez de Sophie qui vous a quitté il y a plus de 4 ans, mais vous êtes lumineux. La vie se poursuit et cette communion du ciel, c'est la communion mystérieuse que vous vivez avec Sophie. On peut le dire ainsi, pour achever ce deuxième entretien, et on se retrouve, et on vous retrouve, et on digère un petit peu ces paroles fortes, des paroles de parents qui ont perdu Sophie, qui avait alors 21 ans. À demain, à la même heure, avec Sur le chemin des Simons de Cyrène, et de belles histoires. À demain.